Et l'invité du grand entretien de la matinale de France Inter aujourd'hui est le président directeur du musée du Louvre à l'occasion du 30e anniversaire de la pyramide, monument iconique de Paris, la première œuvre d'art que les visiteurs admirent avant de rejoindre les salles du musée. Jean-Luc Martinez, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et bon anniversaire 1989-2019. Je vous propose de revenir 30 ans en arrière grâce aux archives de l'INA et à Elisa Amchin avant un grand bond en avant jusqu'à aujourd'hui.
Située dans l'axe historique des Champs-Élysées au centre de la cour Napoléon, la pyramide du Louvre est à la fois le signal du nouveau musée et son entrée principale. Du niveau du sol, on descend dans un grand hall souterrain par cet escalier en hélice ou des escalators.
La pyramide de verre aujourd'hui achevée, le chef de l'État vient tout naturellement l'inaugurer. À ses côtés, François Léotard, mais aussi l'architecte Paille, choisi personnellement par François Mitterrand pour ériger ce qui restera sans doute comme une œuvre maîtresse des années 80. François Mitterrand a longuement admiré les perspectives, la transparence, la légèreté d'une structure qui pèse tout de même 95 tonnes.
Je l'ai immédiatement adopté.
Je pense que ça se marie tout à fait très bien avec le cadre ancien. Le paysage.
Et je remercie l'architecte qui a trouvé ça, parce qu'il nous a trouvé quelque chose de bien.
Ça me choque dans la mesure où ça représente du fric, c'est tout.
Et en final, je pense que ça va s'intégrer, comme tous les monuments, avec le temps.
On disait qu'on allait défigurer Paris, détruire le palais du Louvre. Vous n'imaginez pas ce qu'on a pu écrire à l'époque. Mais une des grandes vertus de Mitterrand, c'était de tenir bon lorsqu'il avait une conviction.
Avec déjà plusieurs milliers de téléchargements depuis son lancement, le parcours intitulé Jay-Z et Beyoncé au Louvre est le tube de l'été sur le site louvre.fr.
Voilà, Jay-Z et Beyoncé, on va y venir dans quelques instants, Jean-Luc Martinez, mais revenons au moment fondateur. Avant, d'ailleurs, partons même d'avant l'inauguration de la pyramide, on a perdu la mémoire de la bataille, de l'immense polémique de presse qui avait accompagné la genèse, la construction, puis la livraison de ce bâtiment. Quel était le problème? C'était un sacrilège que l'architecture moderne s'installe au cœur même de l'auguste Louvre?
Je crois que dans les années 80, il y avait plusieurs choses. D'abord, il faut se souvenir quand même du contexte politique. Hein. C'est la présidence de François Mitterrand, c'est un gouvernement de gauche. Donc il y a tout de même une opposition politique. Et c'est quand même, par exemple, le Figaro qui a pris la tête de cette opposition à ce projet. Mais au-delà de cette opposition politique, c'était un vrai combat des anciens et des modernes. Hein. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, on peut introduire de l'art contemporain, de l'architecture contemporaine dans un bâtiment ancien. Et la réponse de la France a été oui.
Oui, voilà, qui est une réponse unique, mais qui a prospéré après, on va y venir. À quoi ressemblait le musée avant la pyramide?
Ah ça, je m'en souviens très très bien.
Moi, j'étais
étudiant à l'école du Louvre dans les années 80. D'abord, bon, si j'étais étudiant à l'école du Louvre, c'est que j'aimais le Louvre et déjà les musées, mais c'était très très vieillissant. Enfin, je me souviens, on faisait cours, par exemple, avec des lampes torches. Il y avait des salles du musée du Louvre dans lesquelles il n'y avait pas d'électricité. Et la place où il y a actuellement la pyramide, c'était une espèce de petit jardin assez sordide. Puisque étudiant de l'école du Louvre, on allait parfois manger notre sandwich, machin, on n'allait jamais là. Enfin, c'était vraiment
une horreur.
Et puis surtout, on ne traversait pas le domaine du Louvre parce que il y avait des parkings, donc avec des voitures partout. Voilà, donc c'était on longeait le musée du Louvre. C'était pas un espace très convivial.
Et pourquoi une pyramide alors?
Ah ça, bon, il faudrait redemander donc à l'architecte, hein, qui est toujours vivant, sur l'occasion de lui rendre hommage. Je pense que l'idée est d'abord, c'était l'idée de la transparence. C'est-à-dire qu'il fallait, et l'idée audacieuse, hein, c'était de montrer les entrailles du musée. Et pour ça, donc une structure en verre. Quand vous imaginez une structure en verre au centre d'une place, ça peut pas être un cube, ça peut pas être une boule. Voilà, la pyramide très vite s'impose. Et je pense qu'aussi Paye a voulu inscrire dans l'histoire de l'architecture. Et au Louvre, il y a les antiquités égyptiennes, qui est un des grands départements. Et je pense qu'aussi ça a contribué au choix de cette pyramide.
Ça n'était pas, Jean-Luc Martinez, on l'entend dans les archives, qu'un geste architectural. Il y avait surtout une dimension fonctionnelle. Il s'agissait, dites-moi si je me trompe, compte de donner une entrée principale, centrale au musée et de gérer les flux de visiteurs.
Ça, c'est la vraie révolution de la pyramide, hein,
voilà.
Qui a fait rentrer...
C'est ce qui se passe en dessous.
Ouais, qui a fait rentrer le musée du Louvre dans la modernité. Le Louvre d'avant, c'était un Louvre sans coulisses. Pas d'endroit pour stocker les œuvres, pas d'endroit pour faire venir le public... Pas de toilettes, pas de billetterie, pas d'espace. Voilà, la pyramide, c'est pas simplement ce qu'on en voit, c'est aussi tous les espaces d'accueil, avec donc des espaces pour la billetterie, des espaces des restaurants, des boutiques, mais aussi des espaces pour se reposer, parce que nous sommes un corps. Donc voilà, la pyramide, c'est le signe de cette révolution, le visiteur. Mmh. Et le centre du musée. C'est pour lui que on ouvre le musée.
Est-ce qu'on peut dire que la France a été pionnière avec cette pyramide? Est-ce que la France a ouvert une page dans l'histoire des musées, la page de la modernité, où ces grandes institutions, au fond, deviennent des destinations touristiques à part entière et en elles-mêmes des œuvres d'art?
D'abord, il faut se souvenir que c'est vraiment une excellence française, les musées. Hein. Je dis pas ça parce que j'en dirige un, mais dès le 19e siècle, hein, beaucoup de musées dans le monde... Hein, sont des créations d'architectes français. Voilà. Et en effet, l'audace, là, française, c'est, avec le Louvre, avec la pyramide du Louvre, d'inscrire le musée dans un autre temps, une autre dimension. Vraiment, dans l'histoire des musées, il y a un avant et après la pyramide du musée du Louvre. Et ensuite, beaucoup de musées ont imité cela. Hein, donc, mais vraiment, la pyramide a ceci d'unique que, comme vous l'avez dit dans votre annonce, c'est une vraie œuvre d'art. Les gens viennent la voir au même titre que la Joconde ou que la Victoire de Samothrace ou de la Vénus de Milo. C'est-à-dire que souvent, l'entrée a été magnifiée. Il y a beaucoup de musées qui ont créé des ailes supplémentaires pour accueillir le public. Là, la France vraiment a innové avec cette audace architecturale.
Oui, et puis on lit dans le Figaro ce matin à propos du musée de Doha de Jean Nouvel, sublime architectural, sublimité architecturale, que le musée est assez vide... et que la beauté, elle est à l'extérieur. Donc le musée est devenu l'œuvre d'art, là, dans celui que Jean Nouvel ouvre cette semaine.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un tout. Moi, je parle souvent de cette relation. Voilà, pourquoi les gens viennent au musée du Louvre? Ils viennent voir un bâtiment exceptionnel, une architecture exceptionnelle, parce qu'au-delà de la pyramide, c'est aussi 8 siècles d'architecture française. Et cette modernité, cette audace, elle dit quelque chose de l'identité de la France. On a continué au-delà de la pyramide avec le bâtiment de Ricciotti pour les arts de l'islam en 2012, par exemple. Ils viennent voir une collection et ils viennent voir aussi le monde. Parce que le public fait partie du plaisir. Venir voir, vous savez, on a que 75% de visiteurs, plus de 10 millions de visiteurs. Donc, c'est l'endroit où il faut avoir été et où il faut être, le musée du Louvre. Et c'est cette alchimie entre un bâtiment, une collection et un public.
Comment expliquer, Jean-Luc Martinez, que le Louvre soit le musée le plus fréquenté au monde? La concurrence est quand même extrêmement rude.
Je crois que d'abord,
ça tient à
l'image de Paris dans le monde. Parce que nous sommes le pays le plus touristique au monde. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on oublie de dire souvent vis-à-vis du Louvre à Abu Dhabi. Si les Émiriens ont voulu acheter l'expertise française, c'est parce que, au-delà de notre qualité en termes de musée, nous sommes le pays qui accueillons le plus de touristes. Et c'est cette expertise-là qu'on vient chercher. Ensuite, c'est parce que ce bâtiment est au cœur de la capitale. Et je disais tout à l'heure que autrefois, dans les années 80, le musée était fermé sur lui-même. Aujourd'hui, c'est une esplanade de vie. On le traverse, hein, parce que le jardin des Tuileries, qui est aussi géré par le musée du Louvre, donc on peut aller du sud, voilà. Donc tout ça en fait un lieu de vie, comme l'esplanade de Beaubourg participe au succès du quartier de Beaubourg. Voilà, c'est un quartier Louvre. Et puis, c'est aussi une des collections les plus fabuleuses du monde.
Et le Louvre est sans doute aussi le musée le plus instagrammé. Quel est l'enjeu de cette bataille-là, la bataille numérique, la bataille des réseaux sociaux pour un musée comme celui que vous présidez?
Elle est fondamentale parce que, vous voyez, on a franchi le cap des 10 millions de visiteurs l'année dernière, donc on pourrait se dire,
c'est fait.
Mais je rappelle qu'il y a 60% de Français qui vont pas au musée. Que finalement, cette découverte du musée, nous, si on travaille dans les musées, c'est parce que, moi, ça a changé ma vie. Le contact tous les jours, avec ce palais, avec ces œuvres d'art, change ma vie. Voilà. Donc, on a envie de partager ça. Et je pense que, avec les réseaux sociaux, voilà, on a un moyen d'atteindre des publics, qui ne viennent pas au musée, qui ne viendraient pas au musée. Le clip de Beyoncé, par exemple, c'est un moyen formidable.
Vous a apporté quoi?
Ça nous a apporté, d'abord, parce qu'il faut se souvenir que Beyoncé et Jay-Z, ils étaient venus au musée du Louvre. Depuis 8 ans, à peu près, ça faisait la 5e fois qu'ils venaient. C'est des gens, des artistes contemporains, des créateurs, donc, qui fréquentent un musée, et un musée d'art ancien. Il n'y a pas d'évidence à ce qu'un musée d'art ancien soit populaire. Et donc, voir le musée à travers leurs yeux, c'est le voir différemment, parce que c'est ça le musée. Le musée, c'est un lieu où on va construire son imaginaire. Vous viendrez visiter le Louvre, vous ne regarderez pas la même chose que moi, que d'autres personnes.
Le clip en question, on en entendait un très rapide extrait tout à l'heure, Jean-Luc Martinez, a été vu 165 millions de fois sur YouTube. Ça vous a apporté un public différent ou pas ?
Un public différent, on le voit, là, au point d'ailleurs qu'on a mis en place un parcours, hein, parce qu'ils ont choisi des œuvres. C'est une lecture complètement subjective du musée du Louvre. C'est les œuvres que Beyoncé aime au musée du Louvre, avec une histoire qui est une histoire propre à la culture afro-américaine. Mais je veux dire, et alors ? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que chaque artiste, mais aussi vous, moi, on peut avoir cette vision particulière. Donc ça donne une liberté. Voilà. Ça casse l'image d'un musée dans lequel il n'y aurait qu'une seule manière de voir les choses. Non. Et le musée, c'est pas ça. Le musée, c'est le lieu, je le répète, la construction d'un imaginaire.
Et ça vous a rapporté combien, alors, ce clip ?
C'est pas une question financière, hein, donc parce que...
Vous voulez pas donner le chiffre ?
Non, parce que d'abord, personnellement, je m'en souviens plus. C'est quelques milliers d'euros seulement. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que en termes d'association d'images, voilà, on a voulu leur faire la place.
La pyramide et le Louvre, on l'entendait dans les archives, sont le fruit d'une volonté politique absolue de la part de François Mitterrand, qui a imposé le projet, choisi l'architecte, suivi le chantier. À cette tradition-là, il faut évidemment ajouter Beaubourg par Pompidou, Orsay pour Giscard, le Quai Branly pour Chirac. Cette tradition française du président bâtisseur, comme on dit, pourquoi n'est-elle plus possible aujourd'hui ?
Je ne crois pas qu'elle est plus possible. Elle est plus collective, au contraire. Le succès de ce moment particulier des années 80, il se poursuit. Je voudrais dire que quand même notre génération, enfin moi j'ai eu la chance d'avoir participé à l'aventure du Louvre-Lens, donc il faudrait citer le Beaubourg à Metz, d'avoir participé à l'aventure du Louvre à Abu Dhabi. C'est-à-dire que des grands projets de ce niveau, la France continue d'être le pays moteur dans ce domaine.
Mais les grands travaux présidentiels, ça c'est fini.
Je pense qu'aujourd'hui...
À Paris ou en France...
Quelque chose, c'est plus collectif, c'est quand même la volonté de président de la République qu'on fait le Louvre à Lens ou qu'on permis le Louvre à Abu Dhabi. Et à la fin de l'année, nous ouvrons à côté de Lens le centre de conservation de Liévin. C'est un bâtiment créé par Rogers, qui est en course de construction. Rogers, c'est l'architecte de Beaubourg. On continue à promouvoir des grands projets dans le monde des musées en France.
Emmanuel Macron a fait son premier discours au soir de son élection devant la pyramide du Louvre. À votre avis, pourquoi, j'imagine que vous aviez dû échanger, non ?
Sur le sujet. Juste avant, il avait demandé d'abord parce que c'est de la fausse modestie de notre part collectivement, parce qu'on est très bon, c'est-à-dire accueillir en quelques heures une foule, voilà, on sait faire, parce que j'ai des
équipes.
Il
faut savoir faire ça maintenant.
Ah oui, il faut savoir faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de sûreté, en termes d'accueil, moi j'ai une équipe vraiment unique, hein, qui d'agents dans les salles, etc., qui savent faire ça, donc accueillir ce type de grands événements. Ensuite aussi, c'est bien entendu ce symbole, s'inscrire dans la continuité historique. Vous avez rappelé Mitterrand, mais le Louvre qu'on voit aujourd'hui, c'est essentiellement le Louvre voulu par Napoléon III, c'est le Louvre voulu par Henri IV. Voilà, donc c'est un palais du pouvoir français. Donc,
Est-ce qu'il y a une politique culturelle encore aujourd'hui ? Est-ce qu'Emmanuel Macron en a une, selon vous ? Et si oui, laquelle ?
Alors, il faudrait demander au président de répondre à cette question.
Oh, mais vous êtes bien placé, j'imagine.
Mais cette politique, elle est d'abord aussi à l'international de rappeler ce rôle de la France et cette excellence française. Hein. Donc, nous étions récemment en voyage d'État. Enfin, je l'accompagnais en voyage d'État en Égypte. Il est clair, par exemple, que c'est devenu une excellence française et partie de la diplomatie culturelle française, le monde des musées. Et en France, ce qui porte notre génération et les préoccupations du président Macron, c'est l'accès à la culture, l'accessibilité. Le pass culture, par exemple, c'est un vrai pari numérique de permettre à une génération d'accéder à la culture.
Allez, on file au standard d'Inter. Beaucoup de questions. La parole à Serge. Bonjour et bienvenue, Serge. On vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur le directeur du Louvre.
Alors, bonjour monsieur.
Moi j'ai juste une petite remarque, c'est que vous parlez fort bien de votre établissement. Le problème c'est que le Louvre c'est un truc qui a été visiblement conçu pour le tourisme et pas pas n'importe quel tourisme, le tourisme de masse, celui où, qui a justifié l'intervention de JR d'ailleurs d'aujourd'hui, qui dit les touristes viennent, font des selfies en sans regarder le Louvre puisqu'ils tournent le dos à la pyramide. Moi, parisien, je peux pas aller au Louvre parce que pour y aller, comme me l'a suggéré le standardiste qui a pris mon appel, il faut y aller dimanche matin. Sinon, c'est impossible parce qu'il y a des files d'attente absolument colossales. C'est pas que le Louvre, d'ailleurs, Orsay, c'est pareil. Enfin, tous les monuments parisiens sont entièrement sous la coupe du tourisme de masse. Par ailleurs, au Louvre, ils ne vont voir que la Joconde. Hein, si je ne m'abuse, puisque moi, quand j'y suis allé pour des raisons professionnelles, j'ai vu et j'ai constaté de visu que la salle de la Joconde est absolument bondée et que les autres salles à côté sont vides. Voilà.
Question très riche, Serge, qu'on va transmettre évidemment à Jean-Luc Martinez, mais vous avez vu la qualité du standard de France Inter? C'est incroyable, hein, il vous aide à construire votre parcours touristique le week-end.
Absolument.
Alors, Jean-Luc Martinez, il y a des questions très importantes hein, que vient de poser Serge. Le tourisme de masse, pour commencer.
Alors, d'abord, je voudrais la question en effet pertinente, et c'est la question que nous nous posons, et qui est en effet le défi des musées aujourd'hui. Comment on accueille 10 millions de visiteurs et qu'on travaille à la qualité de l'accueil? Parce qu'il ne s'agit pas de transformer la culture en produit de consommation. Et ça, c'est notre travail de tous les jours. Alors, je dis à votre auditeur, et Serge, c'est pas seulement le dimanche. Nous avons, par exemple, depuis le mois de janvier, mis en place une nouvelle nocturne. Le samedi, donc, une fois par mois. Donc, c'est gratuit, à partir de 18h, de 18h à 22h. On peut réserver aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir accéder en moins d'une demi-heure et où on est accueilli. Parce que le secret, justement, pour transformer ce qui est le risque de toute notre société, et qui touche bien sûr le musée, qui est de consommer de la culture en une vraie expérience, c'est le secret, c'est la réservation, l'accueil véritable. Donc venez à ces nocturnes du samedi mensuel.
Et sur la transformation du rapport à l'œuvre d'art, JR, donc le street artist, fait une gigantesque installation pour les 30 ans de la pyramide. Oui, ça fera des photos formidables pour Instagram et les réseaux sociaux. La réduction finalement au clin d'œil publicitaire, c'est ça aussi qui menace le musée, non ?
Non, je ne le vois pas comme ça, parce que, je répète, la majorité des gens se sentent éloignés du monde des musées, et que c'est une manière, au contraire, d'attirer l'attention sur le musée. Mais vous avez raison, l'enjeu pour nous, c'est la rencontre physique avec l'œuvre d'art. Et donc, je signale une autre initiative, monsieur, si vous le voulez, aller dans l'espace qu'on appelle la petite galerie, qui est un espace restreint de 250 mètres carrés, dans lequel on présente tous les ans, donc en ce moment c'est l'exposition Archéologie en bulle, donc les relations entre la bande dessinée, où là, on explique matériellement les œuvres, montre comment elles sont fabriquées, comment elles sont réalisées. Et donc, on veut aussi travailler sur la qualité de cette rencontre.
Et
donc,
dernière, c'est possible.
C'est encore possible. Et au musée, il y a du monde dans les salles du rez-de-chaussée. Il y a moins de monde au premier étage et il y a presque personne au deuxième étage. Donc, l'autre conseil pour vos auditeurs, c'est monter dans le musée.
Benjamin est en ligne. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur Martinez. J'ai une question. On peut se réjouir et je m'en réjouis du succès mondial du Louvre. Je m'inquiète par contre de l'étude de propagande que va devenir le Louvre à Abu Dhabi, dans des pétromonarchies où les droits de l'homme sont très très éloignés des valeurs des œuvres du Louvre, et même de l'instrument de pouvoir d'Henri IV ou de Napoléon III, qui étaient des chefs d'État éclairés. Et je pense pas que les patrons d'Abu Dhabi soient des gens très éclairés. Et dans quelles conditions ont été bâti le Louvre, quand on voit comment sont construits les stades au Qatar?
Merci Benjamin pour cette question. Jean-Luc Martinez vous répond.
Moi, je ne connaissais pas ce pays, et grâce à ce projet, j'y suis allé. Je peux vous assurer d'abord que la France a demandé en effet que les conditions au moment de la construction soient respectées. Et j'ai pu moi-même aller visiter le village des ouvriers et qui a été auditionné donc pendant la construction. Donc la France, de ce point de vue-là, a rien cédé sur ses valeurs au moment de la construction du Louvre à Abu Dhabi. Et puis par ailleurs, contrairement, parce qu'on confond beaucoup de pays de la région, je vous assure qu'il y a une vraie intention d'éducation. Moi, les autorités émiriennes, ce qu'elles me demandent en tant que patron du Louvre, c'est d'arriver avec les valeurs du Louvre. C'est-à-dire notamment de se soucier de toutes les cultures du monde et de la dignité des cultures du monde. Par exemple, ils ont beaucoup d'immigrés, donc d'origine asiatique, donc d'Indiens, de Sri Lankais. Ben, vous savez ce qu'ils nous demandent ? Ils nous demandent de les aider justement à montrer ces cultures pour leurs travailleurs immigrés. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'utiliser donc le musée pour progressivement construire une vision du monde pour les gens qui habitent sur place. Et d'ailleurs, c'est un vrai succès puisque, comme vous le savez, il y a quand même 40% de leurs visiteurs, hein, ils ont annoncé leur premier chiffre cette année, 1 million de visiteurs, qui sont des gens qui vivent sur place.
Mais vous n'avez pas, pour paraphraser Benjamin, l'impression d'être la face artistique du despotisme ?
Moi, je suis au service de la culture, au service de l'éducation. Et ce musée, je vous invite à y aller. Vous verrez toute la diversité aussi des gens qui vivent aux Émirats et la curiosité. De la même manière, vous savez, on a fait une exposition à Téhéran, par exemple, en Iran. Donc, voir 250 000 personnes faire la queue des Iraniens pour venir voir les œuvres du musée du Louvre. Mmh. Voilà. Donc, la culture est aussi un magnifique moyen de libérer et d'offrir de la liberté aux gens.
Laurent est au standard. Bonjour et bienvenue, Laurent.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour France Inter, bonjour Monsieur Demorand, bonjour Monsieur Martinez.
Bonjour Monsieur.
J'avais une question concernant le coût pour l'accès à la culture des grands musées à New York et à Londres, comme le British. Le visiteur donne ce qu'il veut pour visiter le musée. Au Louvre et en France en général, c'est un autre choix. Mmh. Je voulais avoir votre avis sur ces deux vision en fait de l'accès au musée.
Merci pour cette question. Merci beaucoup. Elle revient aussi sur l'application France Inter.
Oui, donc ça, c'est la question de l'accès. D'abord, je voudrais dire que au musée du Louvre, comme dans beaucoup de musées nationaux, à peu près plus de la moitié des gens ne payent pas. Parce que je vous rappelle qu'en France, il y a aussi une particularité. Les moins de 26 ans, donc dans les musées nationaux, ont la gratuité. On ne le sait pas assez. Bien entendu, les enfants, mais les moins de 26 ans, c'est-à-dire la plupart donc des jeunes. Donc, par exemple, l'année dernière, il y avait donc 53% de gens qui sont rentrés gratuitement au musée du Louvre. Ensuite, le tarif, en effet, il est imposé, donc 15 €. Donc, on a bien compris que ça peut être un frein. D'où, par exemple, cette initiative de nocturne gratuite une fois par mois le samedi pour pouvoir venir sans payer. Pour autant, donc, l'autre modèle n'est pas un modèle inverse. D'ailleurs, par exemple, au Metropolitan Museum de New York, vous savez, ils ont mis fin à la gratuité. Aujourd'hui, c'est gratuit pour les New-Yorkais, mais pour tous les autres, le tarif est obligatoire. Parce que qui dit gratuité dit qu'il y a quelqu'un qui paye. Par exemple, à Lens, au Louvre-Lens, la Galerie du Temps est gratuite. Mais c'est donc la région, donc l'agglomération et le département, donc, qui paye cette gratuité.
Retour au standard. Bonjour Vincent. Vous êtes là Vincent?
Oui.
On vous écoute.
Tout à fait, bonjour.
Bonjour.
Vincent, merci Nicolas de me donner la parole et mes salutations au directeur de ce si beau musée du Louvre. J'ai visité le week-end dernier la nouvelle exposition Toutankhamon, très grand public à la Villette. Et cette visite m'a laissé sur un sentiment d'insatisfaction, car j'ai été gêné pendant toute ma visite par les gens qui viennent là pour prendre des photos d'œuvres et non pas pour les regarder. Mmh. Et je voudrais savoir s'il y aurait moyen d'instaurer des horaires sans téléphone portable dans les musées.
Merci Vincent, très belle et bonne question. Que répond le président du Louvre, Jean-Luc Martinez ?
Là, vous touchez à notre quotidien, parce que vous savez, au début des années 2000...
Vrai sujet.
Vrai sujet. Au début des années 2000, on a essayé d'interdire la photographie dans les musées. Donc, à cause de cette perturbation que ça peut créer. Bon, aujourd'hui, tout le monde a en fait un appareil photo dans la poche avec les smartphones. Donc, de toute façon, l'interdiction est impossible. Donc voilà, je vous dis franchement, donc physiquement...
Des heures aménagées, c'est donc, ce que dit Vincent, des horaires alors, sans téléphone portable.
Alors, le problème, c'est que ce serait peut-être possible pour des expositions, et nous, parfois, dans les expositions, on limite pour des raisons de confort, donc le fait de pouvoir photographier, mais aujourd'hui, je pense qu'il s'agit aussi d'éducation. Je disais tout à l'heure que dans ce monde des images dans lequel nous vivons, notre mission consiste à favoriser la vraie rencontre avec des gens et avec des vraies œuvres et pas avec des images. Et donc, c'est d'une lente éducation, mais je ne perds pas courage. Je vais citer l'exemple de la petite Garie, c'est-à-dire dire que, voilà, d'abord, il faut regarder l'œuvre. Il faut apprendre à la regarder avant de la photographier.
Une dernière question. Alors, attendez, est-ce que je l'ai ? Oui, elle est là. C'est sur l'application France France Inter. Lucas, le Louvre, ok, c'est magnifique, mais comment faire pour visiter le Louvre? C'est une question proche de celle des téléphones portables. C'est toujours plein à craquer, il faut faire des heures de queue, des centaines de personnes devant la Joconde. Je préfère aller dans des musées plus confidentiels où on peut se retrouver intimement avec des œuvres.
Alors d'abord, moi je ne suis pas en concurrence avec l'ensemble des musées, et en effet, fréquenter les musées en région, voilà. Mais je vous dis, je voudrais mettre en porte-à-faux, parce que depuis 2 ans, nous vendons les billets en ligne, et nous vendons des billets donc horodatés, ça veut dire qu'on a un créneau d'une demi-heure, et on rentre en moins d'une demi-heure au musée du Louvre. Donc c'est faux, on ne fait
mais
plus...
Mais là c'est sur l'intimité de on qu'on ne fait peut plus... avoir avec
non, mais
une œuvre.
J'y réponds bien à ce point, on ne fait plus des heures à la queue pour rentrer au musée du Louvre. Ensuite, l'intimité, alors dans la salle de la Joconde, à certains moments, il y a beaucoup de monde, mais je vous assure que le 15 août, il y a 2000 personnes dans la salle de la Joconde, mais il y a personne devant Rembrandt ou Vermeer au deuxième étage.
Voilà. Dernière question de curiosité, est-ce que vous vous promenez parfois la nuit dans le Louvre, dans les galeries?
Ah bah c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour avoir ce privilège-là.
Là, pour le coup, d'avoir une relation très intime avec les œuvres. Merci, monsieur le président du Louvre, Jean-Luc Martinez. Bon anniversaire.
À nous tous, parce que c'est
à nous
notre
tous,
anniversaire.
Bien sûr, c'est notre anniversaire. Et puis, JR, c'est jusqu'à quand, me demandait-on?
Jusque aujourd'hui. Et le mystère de la pyramide va être dévoilé ce soir.
Merci beaucoup.